Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur l'appli France Inter. Il y a quelques semaines, nous consacrions une émission à la nullité en orthographe. Face aux nombreuses questions au standard et par courriel, je vous propose une seconde émission consacrée au sujet. Je vous propose de faire le point sur les fautes de grammaire et d'orthographe les plus courantes et sur le prédicat aussi, hein, la nouvelle appellation du complément d'objet et de l'attribut. On fera une petite révision. Et puis notre camarade de France Inter, Xavier Mauduit, nous proposera deux ou trois dictées pour nous tester. Il nous dira pourquoi la dictée reste une passion bien française depuis 1830. Souvenez-vous des fameuses dictées du prof de français idéal, Bernard Pivot, de l'Académie Goncourt. Et bien désormais, il y aura la dictée de Xavier Mauduit. Nous attendons vos questions sur les fautes d'orthographe et de grammaire qui pourrissent parfois votre vie quotidienne. À titre personnel, je ne sais jamais si développement prend deux P ou deux L. Racontez-nous également vos souvenirs de dictée entre stupeur et tremblement et peut-être félicité. Elias et Colline vous attendent au standard d'Inter 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous contacter par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Comment ça s'écrit fuchsia? F-U-S-C-H-I-A. Pardon? Voulez-vous me redire ça, s'il vous plaît? Fuchsia, oui. Non, en face de moi. Fuchsia.
F-U... S-C-H-I-A.
Non.
Il n'y a pas de...
Non.
F-U-C-H-I-A.
Ah,
C-H-S-I-A.
Non, mais c'est terrible, voilà, vous inventez
mais
un
non.
championnat.
Mais non.
C'est affreux.
Mais non, mais c'est les fleurs. Je vous ai dit, je suis brouillé avec les fleurs.
Ah, c'est vrai.
Depuis le début, les fleurs, c'est terrible. Je peux
les
offrir...
Vous enverrez un bouquet de fuchsia.
Je peux les offrir, je ne peux pas les épeler.
Nul n'est à l'abri des fautes d'orthographe. Même ce cher Bernard Pivot dans l'émission Quotidien Pluriel avec Jacques Chancel le 18 février 1985. Avec nous ce matin pour nous aider à déjouer chausse-trappe orthographique et pièges grammaticaux et pour rédiger tous ensemble tout à l'heure deux ou trois dictées. Muriel Gilbert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes correctrice au journal Le Monde et vous publiez Au bonheur des fautes, confession d'une dompteuse de mots à la librairie Vibert. Bonjour Richard Erlin.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur-correcteur au Monde.fr et vous êtes co-auteur chez Flammarion d'un ouvrage à succès, Retour sur l'accord du participe passé et autres bizarreries de la langue française. Je signale également votre blog Langue Sauce Piquante. Bonjour Xavier Mauduit.
Bonjour Ali.
Agrégé d'histoire, chroniqueur dans L'œil du tigre de Philippe Collin le dimanche à 18h sur France Inter. On vous retrouve également sur Arte dans l'émission 28 minutes et vous êtes co-auteur avec Laure de Chantal de la dictée Une histoire française avec une préface d'Éric Orsenna et vous nous proposerez donc tout alors une dictée inédite. De
avec plaisir, une petite régalade.
Moi j'attends ça avec impatience. Alors nul n'est à l'abri des fautes d'orthographe, même Bernard Pivot, Muriel Gilbert.
Même Bernard Pivot en effet. Et le pauvre c'est un peu comme les correcteurs. Dès qu'il en fait une, tout le monde lui tombe dessus alors que personne n'est censé tout savoir. Il y a les dictionnaires pour ça.
Richard Erlin, nul n'est à l'abri, même vous?
Ah ben même nous, oui, bah oui.
Et surtout quand on écrit d'ailleurs, parce que quand on corrige... C'est un peu, je pense que c'est ce qu'expliquera Muriel, de notre métier justement, c'est d'aller la chercher. On part à la chasse de l'erreur, de la faute. Mais nous-mêmes, quand on écrit, oui, on fait des fautes. Oui.
Vous aussi, Xavier, vous en faites de temps en temps.
Oui, j'en fais, et j'en fais pour le plaisir, j'aime beaucoup ça.
Pour le plaisir.
C'est très juste ce qui vient d'être dit. C'est vrai que quand on travaille sur l'orthographe et sur la langue, après, tout le monde nous regarde comme ça, comme le savoir incarné, alors que non, nous ne sommes pas des dictionnaires. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on est correcteur de texte, ce que je ne suis pas, sinon pour mes livres, après, dès qu'on lit n'importe quoi, on cherche les fautes, il y a un réflexe immédiat.
Muriel Gilbert, une langue n'est pas gravée dans le marbre. Prenons par exemple le pluriel indiqué par le dictionnaire de l'Académie française pour le mot « chef-d'œuvre ». Ça a pas mal varié hein, depuis 1694. En 1694, ça s'écrivait donc « chef-d'œuvre » avec un tiré, avec un « s » à « chef » et à « œuvre ».
Voilà, c'est ça. Vous n'allez pas me demander de me rappeler de toutes les dates et de tous les changements, parce qu'en effet, il y en a environ 8, je crois. Ouais. Pour arriver à l'orthographe actuelle. Qui est...
Et l'orthographe actuelle,
je pense que ça va changer encore.
Et l'orthographe actuelle, donc des chefs-d'œuvre qu'on...
Alors, chefs d'œuvre sans S.
Comme en 1694, en fait.
Voilà, c'est ça, on est revenu à 1694.
Alors, le pluriel des mots composés, c'est l'enfer, hein, Richard Erlin. C'est, par exemple, dans le mot chauffe-biberon. Je le mets où, le S, hein, ce S maudit?
C'est facile.
Vas-y, dis-le.
Là, ça, je voulais le dire. En fait, c'est facile quand on sait. Ça, c'est toujours le truc... Après, les gens disent, bah oui, il faut savoir. Alors là, on dit, bah, c'est un nom composé, le premier composant est un verbe, donc il va rester invariable, il ne peut pas prendre la forme, le S du pluriel des noms. Puis après, là, on fait moins le malin, c'est Parce que moi, j'aime bien, c'est l'exemple de tire-bouchon. Mmh. Ça, c'est un exemple que les correcteurs aiment bien parce que il y a une tradition chez le correcteur de bien aimer vivre et bien aimer boire.
Ça se voit chez vous.
Ça se voit, oui, dès le matin. Et par exemple, il y a, alors en fin de soirée, justement, quand on fait des halas, les halas, c'était la fête des correcteurs à la santé du confrère qui nous régale aujourd'hui. Et alors, par exemple, la question en fin de soirée, c'est, mais alors un tire-bouchon, est-ce que tu mets un tire-bouchon avec un S à bouchon ou pas? Parce qu'on attend d'un tire-bouchon qu'il puisse tirer plusieurs bouchons. Et le camarade correcteur dit, oui, mais attends, il ne tire qu'un bouchon à la fois. Alors, est-ce qu'on va mettre un S au singulier ou au pluriel?
Muriel Gilbert, par exemple, dans la phrase « des chauffes biberons dans les sièges auto », hein, je crois que c'est issu de votre livre, c'est une phrase un peu absurde, mais bon. Pourquoi « chauffe biberon » prend un seul S à biberon et pourquoi « siège auto » prend deux S à siège et à auto?
Ben, c'est un peu ce que vous disiez, ouais. Richard, c'est-à-dire dans « chauffe biberon », vous avez un verbe, le verbe « chauffer » au départ, et donc on ne met pas de pluriel à ce « chauffe », tandis que « siège auto », vous avez « siège », qui est un nom, et auto également, donc du coup, siège auto, deux S au pluriel.
Alors la nouvelle, dite hors nouvelle, règle le problème en supprimant le trait d'union de nombreux mots composés, Richard Herlin.
Oui, alors c'est ça, et c'est ce que j'allais dire d'ailleurs, mais c'est bien que vous le disiez avant moi. Et en fait, c'est une tendance qu'on observe dans la langue, y compris, par exemple, l'Académie française, qui n'est pas un parangon de modernité.
C'est un euphémisme.
Mais dès son l'édition de 1835, je crois, propose déjà la soudure, ce qu'on appelle la soudure, parce qu'effectivement, le trait d'union pose problème. Et c'est une tendance naturelle de la langue et de l'écrit. Alors, ça va toucher les mots composés, ça, des délocutions comme entre-temps, par exemple, qui vont finir par se souder. Et puis, on le sait, par exemple, des gendarmes. C'est évident pour tout le monde aujourd'hui, gendarme, c'était au départ des gens d'armes. Un passeport, en un seul mot, c'est quelque chose qui permettait de passer, etc. Et il y a une tendance actuelle et qui a été alors notamment marquée par ce qu'on appelle la réforme de l'orthographe de 1990, qui n'est pas une réforme, qui est une série de préconisations, de simplification de l'orthographe. Et notamment, ça a touché beaucoup de traits d'union qui ont été supprimés. Et on a soudé comme ça. Et ça supprime le problème de l'accord parce que... Alors, vous partiez de chef-d'œuvre, par exemple. Phonétiquement, on peut imaginer qu'un jour, on écrira chef-d'œuvre, C-H-E-D, tout collé. Donc, on ne se pose plus la question de savoir quel est l'élément que l'on accorde au pluriel.
Vous avez Mauduit, vous y tenez, vous, à ce trait d'union, à mille feuilles, à mille pattes ou encore à peau pourrie?
Moi, j'aime beaucoup la soudure. Non, la soudure, c'est vrai, simplifie tout. Si on prend l'idée du week-end, le week-end ou les extraterrestres, c'est la même chose. C'est-à-dire que soit on met un trait d'union et là, c'est compliqué. Est-ce qu'il faut mettre un S à extra parce qu'ils sont tous extra, ces extraterrestres? Ou bien est-ce qu'on n'en met pas? On ne sait plus. Alors que si la soudure est faite, c'est-à-dire s'il n'y a plus de trait d'union extraterrestre et on met le S tout à la fin.
Xavier Mauduit, la dictée, c'est un exercice d'orthographe et de grammaire qui est souvent redouté. C'est un plaisir et aussi une petite torture, hein, surtout quand il faut déjouer les chausse-trappes les plus vicieux de la langue française.
Oh ben rien que le mot chausse-trappe, hein, déjà, il nous fait très peur. Mais c'est vrai qu'il y a la peur et le plaisir.
C'est un plaisir sadomasochiste.
Ben, la dictée, c'est un jeu, mais tous les plaisirs sont sadomasochistes. Enfin, la plupart.
Parlez pour vous,
Non, mais les montagnes russes, on adore ça parce qu'on a peur. Et ben, la dictée, ce sont des montagnes russes. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on aime bien jouer avec les mots.
Je m'adresse aux deux correcteurs autour de la table. Vous étiez bon dictée, Richard Herlin, Muriel Gilbert?
Pas du tout.
Et moi, oui.
Non, pas du tout.
Moi,
non
j'étais
pas. Non, ça a été une catastrophe. Et on parlera peut-être des participes passés.
Ah, oui, ça, tout à l'heure. Après le disque. Bonjour Thomas Chevineau.
Bonjour Ali.
Reporter de l'émission. Vous êtes retourné sur les bancs de l'école pour faire une dictée.
J'ai fait une dictée. Ça s'est plutôt bien passé.
Et pour les élèves que vous avez suivis?
Pour les élèves aussi, mais ce qui est très troublant et ce que j'avais totalement oublié, ce sont les silences entre les phrases. Oui, virgule, et là, deux ou trois minutes de silence, surtout que c'était des CE2, CM1. Ils mettent du temps à écrire.
On écoutera votre reportage tout à l'heure. Nous attendons vos questions sur les règles d'orthographe ou de grammaire qui vous posent problème au 01 45 24 7000 et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com. Notre prof de philo maison Thibaut de Saint-Maurice est en vacances à la place de sa petite philo de la pub et des marques. Je vous propose un petit roman de la pub et des marques avec Julien Bisson, directeur du magazine Lire.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou pour dépenser plus. Non.
Il faut bien secouer, sinon la pub, elle reste en bas.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Alors ce matin, vous vous intéressez à la marque Nespresso d'un point de vue littéraire.
Jean.
George.
Jean.
What else?
That's what George Clooney says.
Nespresso, what else?
Depuis 10 ans, le rituel est le même ou presque. George Clooney, 5 symboles aux cheveux de plus en plus grisonnants, se voit tourner en ridicule dès qu'il approche d'une boutique Nespresso. Au fil des ans, il croisera John Malkovich, Matt Damon, Jean Dujardin, mais l'enrobage, lui, ne changera pas. Capsule dorée, machine design, plan au ralenti d'une goutte en suspension au-dessus de la tasse, onctuosité appuyée qui invite à la dégustation. Autant d'éléments censés inspirer l'idée de l'élégance et du luxe que veut porter la marque, selon une stratégie finalement assez banale pour une grande marque de café. Vous sonnez certainement des réclames pour l'or et son slogan « Sans doute le meilleur café du monde » ou encore « Carte noire », un café nommé Désir. Deux cafés d'ailleurs aujourd'hui totalement ringardisés par le succès des Nespresso.
Alors Julien, pourquoi cette publicité a plu à autant de spectateurs?
On peut penser que le principe de la dosette a séduit une société friande d'efficacité et de simplicité d'usage, comme si la Nespresso était en fait à la machine à café ce que l'iPod fut au baladeur. Mais plus encore que la machine, c'est la campagne elle-même qui a marqué les esprits, et ce grâce à deux piliers indissociables. Le premier de ces piliers, c'est l'autodérision. Le spot Nespresso nous plaît car il s'amuse à tourner en bourrique une vedette de cinéma ramenée ici à un rang tout à fait subalterne. Il est pris pour un voiturier, il est malmené par un parrain de la mafia, ignoré par la plupart des jolies femmes qu'il rencontre. En fait, en rabaissant George Clooney, cette campagne offre à l'inverse à son spectateur un sentiment d'élévation. Il vous suffirait de pénétrer dans l'une de ses boutiques pour être traité à l'égal d'une star de cinéma. S'offrir une de ses fameuses dosettes, ce serait alors comme de déballer le fameux ticket doré de Roald Dahl, la promesse d'intégrer un monde qui vous était jusqu'ici étranger, et où les nantis se verraient pour une fois un peu maltraités au nom de l'universalité de l'expérience café.
Alors l'autodérision de Clooney, c'est le premier pilier, et quel est le second pilier?
Le second pilier de cette campagne, c'est naturellement son slogan, que la marque a popularisé dans le monde entier au point de ne le traduire nulle part. What else? Littéralement, bien sûr, on peut traduire le slogan en quoi d'autre? Prosaïquement, il marque ainsi la volonté de la marque de verrouiller la préférence de son consommateur avec un brin de prétention sous un bon vernis d'humour. Pourquoi chercher un autre café quand vous disposez de celui-là? Mais si ce slogan a tant marqué les esprits, c'est qu'il opère en réalité à différents niveaux. What else? C'est la suppression des alternatives, c'est la communion dans l'église unique de l'instantané authentique, à la mode capriccio, voluto, dulceo, ristretto. Cette simple phrase, ces 8 petites lettres, c'est aussi une interrogation subtile sur la valeur de ce que nous possédons, l'attraction exercée par ce que nous désirons. Quoi d'autre? C'est une projection déjà vers la suite, vers la prochaine gorgée, la prochaine idole à consommer. Et le buveur de café se trouve alors dans la délicate situation de celui qui ne sera jamais rassasié. Dans les choses, Georges Perec mettait déjà en scène un jeune couple, type des années 60, Jérôme et Sylvie, qui découvraient avec appétit la société de consommation et avec elle les vertiges du matérialisme qui jamais ne les satisfera. Pour ce jeune couple qui n'était pas riche, écrit Perec, mais qui désirait l'être simplement parce qu'il n'était pas pauvre, il n'existait pas de situation plus inconfortable. Ils n'avaient que ce qu'ils méritaient d'avoir. Ils étaient renvoyés, alors que déjà ils rêvaient d'espace, de lumière, de silence, à la réalité, même pas sinistre, mais simplement rétrécie, et c'était peut-être pire, de leur logement exigu, de leur repas quotidien, de leurs vacances chétives. C'était ce qui correspondait à leur situation économique, à leur position sociale. C'était leur réalité. Ils n'en avaient pas d'autre. Quoi d'autre? Demande Nespresso. Rien d'autre, répond Perec avec acidité. Nothing else, juste un café pas trop mauvais, et tant pis pour Georges Clooney.
Merci Julien Bisson pour ce petit roman de la pub et des marques dans Grand Bien Vous Fasse, une émission préparée par Laure Grand-Besançon et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot, et c'est réalisé par Jérôme Poulet.
À lire et BI sur France Inter.
J'ai de l'or, j'ai de l'or, j'ai de l'or, j'ai de l'or, j'ai de l'or.
Quand on sera mort, que fera-t-on de tout?
Aïe Cowboy, j'ai de l'or.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h22 et ce matin, je vous propose de traquer quelques fautes d'orthographe et de grammaire parmi les plus courantes et de faire ensemble une ou deux dictées avec Xavier Mauduit de France Inter et avec les correcteurs traqueurs de fautes Muriel Gilbert et Richard Herlin. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous appelez Doloron Sainte-Marie.
Exact.
Bon, alors vous êtes étranger et voilà, vous avez une petite réflexion sur notre orthographe nationale.
Après, c'est une impression, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais je trouve des fois il y a une espèce de narcissisme, parce que je remarque souvent, notamment quand je fais mes formations, je fais une formation pas de plus tôt, après une gestion licence export-import, que le faute orthographe ou le bon français, même dans les exercices, c'est plus important que le contenu. Parce que des fois, j'écris quelque chose, ou même autre personne écrit, et la première réaction n'est pas « ok, c'est bien » ou « pas bien, qu'est-ce que j'ai écrit ?» Quelle faute orthographe.
Thomas, si je vous ai bien compris, l'orthographe est parfois plus important que le contenu.
J'ai l'impression. Je comprends, par exemple, pendant une formation, quand on écrit le mémoire, il faut quand même bien écrire le français. Mmh. Ça, oui, mais des fois, dans les exercices ou dans la vie quotidienne, voilà, ça me bloque. Des fois, écrire un email parce que j'ai peur de faire trop de fautes de français, d'orthographe, par exemple. Il y a des mots, accueil, que je ne sais jamais comment écrire, par exemple.
Thomas, j'ai l'impression que votre accent est espagnol. Je me trompe?
Non, je suis allemand.
Non, je plaisantais, évidemment.
L'autre côté de la frontière.
Petite réponse de Xavier Mauduit, peut-être.
Oui, c'est très intéressant ce qui est dit parce que c'est daté historiquement, cette idée-là. C'est-à-dire que l'orthographe prime sur le fond pendant très longtemps, pendant des siècles. Le principal était d'être lu et d'être compris, et peu importe vraiment l'orthographe. Mais quand l'Académie française, qui est fondée par Richelieu en 1635, prend les choses en main, là, au moins, on a des codes sociaux très nets, c'est-à-dire qu'on maîtrise la personne, ou en tout cas, on arrive à la situer socialement selon sa maîtrise de l'orthographe.
Merci Thomas de nous avoir appelé. Alors j'aimerais qu'on évoque quelques fautes d'orthographe que l'on fait assez souvent. L'accent circonflexe, par exemple. Hein, dans la nouvelle orthographe, ça disparaît de nombreux mots, Muriel Gilbert.
Alors, il disparaît...
Il y a une alternative. On peut, par exemple, écrire « dîner » avec ou sans accent circonflexe.
Voilà, il est censé disparaître...
Comme disparaître
des
aussi.
Mots, voilà, des mots pour lesquels il ne risque pas de causer de confusion, à vrai dire. Hein. Donc, c'est pas de tous les mots. Et donc, sur les réseaux sociaux, au moment où on a annoncé que cette réforme de l'orthographe allait s'appliquer, beaucoup de gens se sont amusés de dire que je vais me faire un petit jeûne pourrait devenir un tout petit peu, comment dire...
Ambigu.
Ambigu, voilà, effectivement.
Et là, on parle de jeûne dans le sens de jeûne thérapeutique.
Un petit jeûne ou un petit jeûne ne serait pas la même chose. En fait, effectivement, comme là, c'est ambigu, on laissera cet accent circonflexe.
Donc, l'accent circonflexe, on peut le conserver ou l'enlever dans les mots disparaître, traître, chaîne, fraîcheur, entraîner, boîte, c'est ça?
Voilà, tout à fait.
Xavier Mauduit.
Oui, globalement, on peut dire que l'accent circonflexe disparaît sur mon i et sur mon u, parce que, non, mais c'est vrai, il reste hein, sur les e. Et l'accent circonflexe a un vrai intérêt, notamment dans forêt, on connaît la chose. Hein. C'est ce vestige du s qu'on retrouve dans le mot forestier. Ben, le s est monté au-dessus du e. Et il y a l'accent circonflexe, c'est une belle histoire, faut le garder.
J'aimerais qu'on revienne, Muriel Gilbert, sur la particularité du mot oiseau qui peut poser problème à Thomas, notre précédent auditeur. Ouais. Pour les étrangers, c'est assez compliqué comme mot. Hein.
Ben, il est connu pour être le plus long mot de la langue française dans lequel aucune des lettres ne se prononce. C'est-à-dire le O ne se prononce pas O, le I non plus, le S se prononce Z, voilà, E, A, U fait un O, et puis si on rajoute un X qu'on n'entend pas, voilà, c'est le... C'est effectivement un des mots les plus compliqués pour les étrangers.
Alors, oiseau, c'est une bête noire pour les étrangers. Est-ce que vous, autour de la table, vous avez des bêtes noires en orthographe, Martine Gilbert? Il me semble que...
Moi, c'est Muriel. Mais...
Muriel, pardon, Muriel Gilbert. Il me semble que... Vous savez, j'ai un gros problème avec les prénoms.
C'est vrai?
Ouais, c'est récurrent, c'est terrible. Exorbitant, par exemple?
Alors, exorbitant, c'est vrai que c'est... Je crois que maintenant que j'ai écrit ce livre et que j'ai avoué dans ce livre que exorbitant était un de mes mots bête noire, maintenant je me souviendrai.
On le met où le H alors?
Eh ben, on n'en met pas, mais moi j'ai toujours envie d'en mettre une, comme dans exhibition ou dans...
Exhumé.
Exhumé, voilà.
Richard Herlin, votre bête noire?
Oh, il y en a beaucoup.
Allez, citez-en quelques-uns.
Elles sont toutes dans le dictionnaire, donc je prends le dictionnaire. Non, mais je crois qu'on... par exemple, c'est les doubles consonnes, ça c'est... Je crois que c'est une bête noire pour tout le monde. Vous disiez sur développement.
Moi, j'ai occupé aussi.
Occupé, rappelé. Alors avec des choses effectivement qu'il aurait peut-être fallu régulariser un peu entre appeler avec un seul L, mais interpeller avec deux L. Alors on peut confondre les deux, on peut mélanger, c'est terrible les doubles consonnes.
Xavier Mauduit.
Oui, les doubles consonnes c'est terrible et puis il y a certains mots qu'il faut éviter. Par exemple, on n'offre jamais des fuchsias, on offre des roses. C'est beaucoup mieux.
Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles pour le pluriel des adjectifs de couleur, Muriel Gilbert? Pourquoi est-ce que je peux écrire des jolies robes rouges, avec un S à rouge, et 32 adorables labradors chocolat sans S à chocolat? Je reprends un exemple de votre ouvrage.
Alors, c'est quand les adjectifs de couleur désignent des objets, on va dire, autre chose qu'une couleur. C'est-à-dire quand c'est chocolat, ça veut dire marron. Non, mais même marron, c'est pas un bon exemple non plus, d'ailleurs.
Vous êtes en train de nous emmêler, là.
Comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Des robes rouges, c'est la couleur rouge. Si je dis des robes fuchsia, tiens, voilà. Je ne vais pas mettre de S à fuchsia parce que c'est un nom, on va dire.
D'accord. En fait, c'est à chaque fois qu'on peut intercaler, par exemple, ça veut dire... c'était de quoi l'exemple?
De la couleur du fuchsia,
voilà, c'est
en
de
fait,
la couleur dirait, voilà. Du marron, c'est de la couleur du fuchsia, etc.
Alors,
il y a des choses encore plus pernicieuses, si je peux me permettre.
Il y a les vaches.
D'accord. Il y a les vaches, oui. Ça, c'est les vaches et c'est vaches.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur l'une de nos plus grandes bêtes noires, l'accord du participe passé. L'effroi des écoliers et des maîtres.
Eh oui.
Richard Herlin.
Oui.
Alors, qui a le courage de nous rappeler les grandes règles et les moyens de s'en souvenir? Richard Herlin, peut-être?
Est-ce qu'on peut passer la journée?
D'abord, l'auxiliaire être, c'est relativement facile.
Mais non, être, c'est le plus compliqué.
Ah bon?
Ben oui. Non, non, en fait, il faut partir d'avoir, c'est ça le plus simple. Et ça, c'est la règle dont on connaît la musique et on a un peu oublié les paroles.
Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct placé avant le verbe.
Voilà.
On dit même plus complément d'objet direct, on dit prédicat maintenant.
Là, c'est la vieille école.
Non, prédicat, c'est autre chose. Mais musique et paroles, voilà, c'était très bien.
Merci.
Donc, il faut partir de ça. Et là où. Alors, j'aime pas dire ça, j'allais dire c'est relativement simple. C'est simple quand on sait. Mais pour ceux qui, à partir du moment où on le sait, on se dit, oui, je dois repérer cet objet bizarre qu'on appelle le complément d'objet direct. Il faut qu'il soit placé avant. Et là, au moment où je vais écrire, je sais que je peux accorder le participe passé qui, lui, va forcément être derrière. Donc, la rose que j'ai vu quoi? La rose, UE. Jusque-là,
tout va bien.
Alors là où ça se complique énormément, c'est effectivement avec l'auxiliaire être. Et alors notamment dans une forme verbale.
Pronominale.
Voilà.
Là, c'est compliqué.
Ah, c'est compliqué.
Alors expliquez-nous tout.
Alors il faut expliquer que pronominal, déjà, ça veut dire que on a un verbe et un sujet. Le sujet est un pronom. Mais là, on va avoir deux pronoms, c'est-à-dire on va avoir un pronom sujet et on va avoir un pronom complément. Et donc, on a des verbes qu'on appelle... Alors là, je crois que les auditeurs sont en train de se rendormir. On a ce qu'on appelle des verbes essentiellement pronominaux, c'est-à-dire on ne peut pas les conjuguer autrement qu'avec les deux pronoms. Alors, l'exemple type, c'est évidemment se suicider. Oui. Alors, qui est une forme de pléonasme, mais il est entré dans l'histoire. On ne peut pas dire « hier, j'ai suicidé ». On est obligé de dire « hier, je me suis suicidé ».
C'est bien à 10h31, là, j'aime beaucoup.
Oui, alors, par exemple, se souvenir, voilà, ça c'est... On ne peut pas dire « ah, j'ai souvenu ». On est obligé de dire « je me suis souvenu ». Donc c'est essentiellement pronominal. Dans ce cas-là, c'est facile, on accorde avec le sujet. Ça, c'est pas compliqué. Là où ça se complique, c'est avec ce qu'on appelle les verbes accidentellement pronominaux.
Oula.
Et oui, et dans accidentellement, il y a accident, et c'est là où on risque d'en avoir un. Parce que là, il faut faire toute une opération... qui va consister d'ailleurs mentalement à repasser par avoir. Alors, par exemple, évidemment, quand on cherche un exemple à cette heure-ci, on n'en trouve pas. Laurent Mauduit, merci de me souffler un exemple.
Xavier, j'adore, c'est le festival des prénoms, mais c'est pas des fautes d'orthographe.
Non,
mais vous savez,
c'est l'heure matinale.
Il y a presque de la poésie dans un discours autour de l'orthographe.
Ouais, ouais. Oui, ben merci de m'aider. Tout le monde.
Est-ce que tu voulais parler de je me suis lavé?
Très bien. Celui-là, il est bien. Je me suis lavé. Alors, on va le mettre au féminin pour que ça s'entende à la radio. donc, une dame, par exemple, dira je me suis lavé. C'est-à-dire, j'ai lavé me qui est mis pour moi, c'est-à-dire le pronom complément. Mais elle dira je me suis lavé les cheveux. Parce que ça devient « je me suis lavé quoi ?» les cheveux, placés derrière et je n'accorde pas. D'accord. Et le même petit « me » ce petit pronom, il était complément d'objet direct et devient complément d'objet indirect.
Bonjour Monique.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous avez tout compris ?
Oui, j'ai très bien suivi parce que je suis partie d'une génération qui a été biberonnée à l'orthographe. On y attachait énormément d'importance.
Alors, vous appelez de Limoux, alors.
Alors, quand vous avez parlé des fautes très, très fréquentes dans le parler, j'ai pensé au mot espèce. Le mot espèce qu'on a tendance à accorder avec le sujet et à masculiniser alors que c'est un mot féminin.
Oui,
j'espère que vos intervenants seront d'accord avec moi.
Bah oui, c'est un mot féminin, mais je vais aller dans votre sens, Monique. Il y a de nombreux mots qui prêtent à confusion, hein, Muriel Gilbert. Le anagramme, par exemple, astérisque, anthrac, on ne sait jamais, masculin, féminin.
Alors, pour certains de ces mots-là, moi-même, j'ai des difficultés. Je me suis élaboré des petits trucs. Par exemple, bon, astérisque, c'est comme obélisque. Tous les deux sont des garçons chez Goscinny et Uderzo. Et du coup, ça me permet de me rappeler qu'on dit un astérisque et un obélisque. C'est quand même des
anagrammes.
Alors, anagramme, je ne me souviens plus, tiens. Voilà, il faudrait que je regarde dans ma liste.
Comment on fait pour s'en souvenir d'une anagramme ? Vous avez un moyen mnémotechnique ?
Oui, comme une nana, tiens. D'accord. C'est ça. Une anagramme.
Et voilà. Entracte ?
Alors, un entracte, bien comme un acte. Là, c'est finalement assez évident.
Une oasis, on entend souvent un oasis.
Voilà, moi aussi, c'est un des termes qui me posait problème. Et je me dis, une eau. Dans une oasis, il y a de l'eau, une oasis.
Oui, il faut dire que c'est historique aussi, parce que ce sont des mots qui ont changé de genre. Hein, comme entre, alvéole. Parce qu'en plus, il y a une espèce de représentation psychologique du féminin. Quoi. Mais alvéole, à l'origine, était masculin. Mais il a tous les aspects du féminin avec le final, et c'est devenu une alvéole, entre, pareil.
Et rappelons que certains mots se féminisent au pluriel, évidemment.
L'amour.
Amour,
délice et orgue.
Bah oui.
Hein, c'est ceux qui sont les plus connus, ceux-là.
Et alors, mais avec une complexité, parce que orgue, ça ne se féminise qu'à condition qu'elle soit au même endroit. C'est-à-dire les grandes orgues, à condition que ça soit dans la même... Mais il y a des grands orgues à travers la France.
Et puis il y a des mots hermaphrodites, comme Jean, J-E-N-S. Méfiez-vous des gens méchants, méfiez-vous des méchants de gens. Ils changent selon la position dans la phrase.
Oui, et alors ce qui est assez bizarre quand même, parce que dans la même phrase, on peut effectivement avoir un masculin devant et un féminin derrière.
Ces méchants de gens sont des crétins.
Voilà.
David Mauduit, un petit commentaire ?
Moi, je trouve que ces moments très délicats où dans une conversation, on hésite sur le genre d'un mot, où on se rend compte d'ailleurs qu'il y a des mots transgenres, ce sont des moments de vrai plaisir. C'est beau, la langue. C'est beau parce que ça permet la conversation de discuter longuement en disant « Alors, Astérix, parlons d'autre chose. »
Allez, à vos stylos, notre camarade Xavier Mauduit vous propose dans quelques instants deux dictées, l'une classique et l'autre de son cru. Vous pouvez continuer à réagir sur notre page Facebook, par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com et au 01 45 24. 47 000. les Jackson 5 qui interprètent un titre qui tombe à pic, ABC.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
10h38 et ce matin, je vous propose de traquer quelques fautes d'orthographe et de grammaire parmi les plus courantes et de faire ensemble une ou deux dictées avec l'historien Xavier Mauduit de France Inter et avec les correcteurs traqueurs de fautes Muriel Gilbert et Richard Herlin. Rebonjour Thomas Chauvineau.
Rebonjour Ali.
Alors vous êtes rendu dans une salle de classe pour faire une dictée.
Oui, j'ai fait une dictée dans une classe double niveau, CE2, CM1, en région parisienne. Et pour éviter que ce soit juste une dictée pour la dictée, le professeur à chaque fois renvoie ce texte de dictée à une autre leçon. Et ça va plaire à Mauduit, puisque là en l'occurrence, c'est une leçon d'histoire de l'art.
Début de la dictée. Are you ready? On commence. Alors qu'est-ce qu'on doit faire avant d'écrire? On doit répéter la phrase dans notre tête, c'est-à-dire qu'ils se redisent la phrase avant de passer à l'écrit. Les premiers hommes ont peint sur les parois des grottes.
Voilà. Et après, ce qui est impressionnant dans la classe, c'est que c'est le silence et encore le silence. Alors une fois que vous avez échangé quelques regards avec la maîtresse, quelques sourires complices, bon bah qu'est-ce qu'on fait? On regarde les élèves et là c'est un vrai régal. Vous savez, les fronts qui se plissent de concentration, les têtes penchées vers les copies avec la langue un peu tirée comme ça où on écrit avec application.
Pourquoi tu fais la grimace?
Horreur.
Si je te fais, tu fais la grimace. Pourquoi tu fais la grimace?
Je fais pas de grimace.
Ah, si tu fais une grimace.
Non.
Tu te souviens plus des phrases?
Si.
Je répète. Les dolmens sont constitués de grandes dalles horizontales posées sur des dalles verticales.
Cette dictée-là, entre guillemets, n'est pas seulement une dictée. C'est bon?
Oui.
Vous avez tous mis le point?
Oui.
Parfait.
Donc vous, votre dictée, c'est pas un texte qu'on sort comme ça d'un chapeau, d'un programme? Il est en rapport avec le reste des cours que vous pouvez faire?
Pour moi, ça a beaucoup de sens dans le sens où c'est un texte, la dictée-là, en l'occurrence sur Carnac, traite d'une période historique qu'on a étudiée, mais on ne l'étudie pas actuellement. Donc ça permet de voir en plus ce qui reste de ces périodes.
Oui, c'est pas juste de l'orthographe pour de l'orthographe.
Pas du tout.
Mais ça marche mieux comme ça?
J'ai l'impression que ça marche mieux comme ça, puisque les résultats sont en nette hausse depuis le début d'année.
Et pourquoi, donc, à votre avis?
Il n'y a pas seulement est-ce que je mets des X ou des S, est-ce que j'accorde, c'est-à-dire qu'on va... Il y a un intérêt, il y a un vrai intérêt.
Les dolmens sont constitués de grandes dalles horizontales posées sur des dalles verticales.
Dans tous les textes littéraires, peu importe lesquels, vous pouvez travailler même les textes des élèves, c'est-à-dire que vous pouvez travailler une dictée à partir des productions d'élèves. Donc on peut toutes les situations à travailler les accords, les verbes, les déterminants, les noms.
Ça vous arrive de faire des dictées avec des textes d'élèves?
Oui, aussi. S'interroger sur les mots, c'est aussi mettre du sens derrière. Si je mets des S à tel et tel adjectif, c'est parce que je sais que je comprends ce que je suis en train d'écrire.
Bon, vous pensez que vous n'avez pas fait de faute?
Je suis sûre que j'en ai fait plein.
Bah, comment vous savez que vous avez fait des fautes? Alors pourquoi vous ne les avez pas corrigées si vous savez que vous avez fait des fautes?
Bah, moi, je corrigeais. Bah, parce que en fait, on n'arrive pas trop à remarquer les fautes puisqu'on ne sait pas comment ils sont. Enfin, si on fait une faute d'orthographe, on croit que ça s'écrit comme ça, mais on ne sait pas si on en a fait une ou pas.
Eh oui, je comprends. Toi, tu voulais dire quoi?
Bah, je sais pas.
Ah.
En fait, moi, j'aime bien les dictées, mais ça dépend du thème. Là, j'aimais bien, par exemple.
Et est-ce que tu penses que plus t'aimes le thème, moins tu fais de fautes?
Oui, parce que ça donne envie d'apprendre.
Hein? Attends,
oui.
Vas-y.
Ça donne envie d'apprendre.
Quoi?
Bah, quand t'as quelque chose qui t'intéresse, ça donne envie d'apprendre. Et donc, du coup, bah, c'est plus facile de connaître ces mots, parce qu'on a envie. J'aime plus, et donc, du coup, je fais moins de fautes.
Attends, mais... Ouais. Mais les gens font des fautes d'orthographe, bon, on peut pas réussir dans la vie.
Par carrément.
Un petit peu, non, pas vraiment. Pas vraiment, mais un petit peu.
Tiens, ma chérie. Le fonctionnement mathématique sur les problèmes, c'est-à-dire quand vous dites on va faire des problèmes, il y a quelque chose dans le mot déjà problème qui fait que les enfants sont un peu paniqués. Le principe de la dictée, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on aborde la dictée à travers les textes d'histoire de l'art, on désacralise un peu cette dictée qui peut paniquer aussi certains enfants. Voilà, c'est important aussi cette confiance en soi.
Et dictée, comment ça s'écrit?
D-I-C-T-E accent E-U-E-E.
Et au pluriel, enfin, il y a un S.
Reportage signé Thomas Chauvineau. Commentaire autour de la table, Xavier Mauduit.
Ah bah ça nous ramène à notre enfance, c'est ça aussi qui est beau avec la dictée. On a tous ce souvenir commun du moment terrifiant de la dictée. C'est très bien ce qu'a fait Thomas parce qu'il y a beaucoup de sourires.
Alors je rappelle, Xavier Mauduit, que vous avez coécrit La dictée, une histoire française. Depuis quand fait-on des dictées à l'école ?
1830 environ, les années 30, où vraiment la dictée s'institutionnalise au moment où se mettent en place les écoles avec la loi Guizot. Mais avant, il y avait déjà des dictées, mais c'était pas vraiment un exercice intéressant tant que l'orthographe n'était pas fixée. Bon, une fois que début du 19e, l'académie arrive vraiment à imposer dans une volonté que tous les Français aient la même langue, l'orthographe et la grammaire, eh bien, on peut faire des dictées.
Et la dictée détient, bien sûr, dès ses origines, des vertus éducatives et civilisatrices. Et elle contribue également à l'apprentissage du roman national.
C'est tout à fait ça, parce que dans le reportage de Thomas, il y avait la volonté de mettre dans la dictée un message d'apprentissage. Eh bien, les Français apprenaient, eux, beaucoup de choses de leur propre histoire et même des messages de propagande à travers la dictée. Et puis, il y avait aussi les conseils, faut se laver les mains, faut faire tout ça. Dans la dictée, ça marchait très bien, ce système-là.
Alors, la beauté des dictées, c'est aussi de sauver de l'oubli des mots qu'on n'utilise plus.
Oui, c'est dommage. Hein. D'ailleurs, certains mots ont comme ça complètement disparu. Moi, je reste toujours fasciné par cette haridelle qui me manque énormément, une vieille jument comme ça. On sait jamais trop comment ça s'écrit. Faut-il un H? Faut-il pas de H? Oui, il en faut un. Mais voilà, ces mots-là ont aussi quelque chose de poétique. Les Français adorent leur langue. Hein. On aime bien regarder tous ces mots qui ont disparu, les faire ressortir. Et puis, il y a un petit côté décevant.
Gérard Erlin,
oui.
Parce que dans votre ouvrage, vous avez consacré un chapitre aux mots oubliés.
Oui, bah parce que oui, il y en a plein. Oui, ils disparaissent, c'est malheureux, quoi. Parfois,
ça vous rend triste.
Ouais, ça peut rendre triste. Et puis, notamment, ils finissent même par sortir des dictionnaires, quoi. C'est-à-dire, ils n'existent plus nulle part. Alors, c'est vrai qu'il y a parfois des entreprises comme ça de rénovation. On dit, on va essayer d'en réintroduire. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que, par exemple, dans l'argot. Les jeunes, par exemple, reparlent de maille. On dit, je peux pas y aller, j'ai pas de maille. Qui est un vieux mot hein, qu'on retrouve dans l'expression avoir maille à partir, par exemple.
Le daron, c'est un vieux mot. Ouais. La zone, s'il y a un mot qui est ancien, qui est médiéval, la zone, elle est zonée, c'était être en périphérie des villes.
Vous le dites encore, zonée?
Eh ben, écoutez, moi, j'ai toujours mon côté désuet, donc je suis sur le vocabulaire des années 60, 70.
Oui.
Eh bien, maintenant, la dictée de la finale, que j'ai eu le plaisir d'écrire. Le texte en a été revu et corrigé par le jury national avec son habituel. Quelques recommandations, écrire bien lisiblement, et quand vous devez faire des ratures, faites-les d'une manière très nette, très propre. Ne pas couper les mots en bout de ligne, vous le savez, pour éviter toute confusion avec le tiret ou pas de mots composés. Bien faire les accents, qu'on distingue bien les aigus des graves. Hein. Et enfin, rappelons qu'il n'y a pas de faute de majuscule ni de faute de ponctuation. Je vais d'abord lire le texte en continu. Le titre ne va pas vous surprendre. Drame à l'opéra.
Un extrait des Dicodeurs avec Bernard Pivot en 1999. Xavier Mauduit, vous êtes ce matin le digne successeur de Pivot.
Oh.
Et vous nous proposez une dictée inédite pour le plaisir.
Oui, écoutez, moi je pense qu'on peut faire exactement comme faisait Maître Pivot, c'est-à-dire une première lecture pour repérer déjà les pièges qui vont venir. Et puis après, on la fera cette dictée. Allez, c'est parti. Donc un titre.
À vos stylos.
Événement rare. Un week-end, elle s'était laissée entraîner dans la petite cahute près de l'étang au Nénuphar. Elle servit le punch avec le compte-gouttes réglementaire. Elle avait de beaux appâts. 21 oignons qui s'amoncellent sur des cuisseaux de chevreuil. Avec bonhomie, elle prépara une sauce douceâtre. Des misses comme elle, combatives, avec des yeux revolvers, sont vraiment des extraterrestres. Alors, voilà, la dictée est terminée. Je pense que les auditeurs ont déjà repéré qu'on a évoqué plein de pièges hein, qui se trouvent dans cette dictée. On y va ?
Allez, on y va.
Allez, c'est parti. Donc le titre, je vous ai dit « Événement rare ». Un week-end, elle s'était laissée entraîner dans la petite cahute. Je fais vraiment mon prof. Hein. Un week-end, elle s'était laissée entraîner dans la petite cahute près de l'étang au Nénuphar. Oui, c'est bon ça, ça le fait bien, Ali. Dans la petite cahute, près de l'étang au Nénuphar. Ali, copiez pas.
Point.
Elle servit le punch avec le compte-gouttes réglementaire.
Point. Point.
Elle servit le punch avec le compte-gouttes réglementaire. Elle avait de beaux appâts. Elle avait de beaux appâts.
De points. Point.
21. Et alors là, il faut l'écrire en toutes lettres, hein, pas de chiffres. 21 oignons qui s'amoncellent sur des cuisseaux de chevreuil. 21 oignons qui s'amoncellent sur des cuisseaux de chevreuil. Je regarde un petit peu, hein, pour le rythme, Julien, Thomas, Alice, c'est bon, ça va pas
ça
trop
va
vite.
Un peu vite hein.
Ça va un peu vite. Hein. 21 oignons qui s'amoncellent.
Qu'est-ce qu'il y a avec
Monsieur, vous pouvez répéter. Non, mais c'est vrai qu'on aime bien ça, on aime bien le souvenir d'école. Donc, nos 21 oignons qui s'amoncellent sur des cuisseaux de chevreuil avec bonhomie, virgule, elle prépara une sauce douceâtre.
Point d'exclamation.
Avec bonhomie, elle prépara une sauce douceâtre. J'aime bien, Ali, quand vous faites la ponctuation.
Je suis là pour ça, vous savez.
Ouais, c'est bien. Avec bonhomie, virgule, elle prépara une sauce douceâtre.
Point d'exclamation.
Parfait. Et dernière phrase, des misses comme elle, virgule, combatives, virgule, avec les yeux revolvers, virgule, sont vraiment des extraterrestres.
Point d'exclamation.
Des misses comme elle, virgule, combative, virgule, avec les yeux revolvers, virgule, sont vraiment des extraterrestres. Voilà.
Voilà, c'est terminé. Alors on va... On la relit une dernière fois ou...
Moi, je peux vous la lire vite fait, puis après on décompose et on voit les pièges. Voilà. Événement rare. Un week-end, elle s'était laissée entraîner dans la petite cahute près de l'étang au nénuphar. Elle servit le punch avec le compte-gouttes réglementaire. Elle avait de beaux appâts, 21 oignons qui s'amoncellent sur des cuisseaux de chevreuil. Avec bonhomie, elle prépara une sauce douceâtre. Des misses comme elle, combatives, avec les yeux revolvers, sont vraiment des extraterrestres.
Allez, on va corriger cette dictée. Julien Bisson et Thomas Chauvineau, vous rendez vos copies, s'il vous plaît. Personne n'a copié. Personne n'a copié l'un sur l'autre. Je vérifie.
On était trop loin, mais moi j'avais tendance à copier sur Julien Bisson. Il lit beaucoup de livres. On va pas faire de faute.
Allez, Xavier Mauduit, le corriger. Alors... Et sous l'œil de Muriel Gilbert et de
Richard
Erlin.
Alors, premier piège dans le titre, événement. Événement rare, où c'est qu'on met les accents à événement, quels accents surtout?
Ça a changé.
Récemment. Voilà. C'est-à-dire que pendant longtemps, événement avait deux accents aigus, et maintenant, on met pour le deuxième E un accent grave. Enfin, en tout cas.
On a le choix.
On a le choix. Ce sont les préconisations de 1990 qui sont ressorties assez récemment d'ailleurs. Alors. Continuons.
Il y a une autre question d'accentuation, c'est faut-il accentuer ou pas la majuscule?
Ah, c'est une bonne
question. Ça, c'est un débat récurrent.
Moi, je trouve que c'est important d'accentuer les majuscules, sinon on a du mal à lire. Alors, un week-end. Le week-end, on l'a vu tout à l'heure. Comment on écrit le week-end, alors?
On l'écrivait avant, jusqu'à cette dernière réforme avec un tiret. Et puis aujourd'hui, on est autorisé à l'écrire en un seul mot.
Exactement. Alors, elle s'était laissée entraîner. Là, Richard Erlin a donné la solution tout à l'heure. Elle s'était laissée. Faut-il accorder ?
Richard.
Ah, il faut que j'apporte la réponse.
Ouais. C'est toi le spécialiste.
Alors là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est le participe passé suivi d'un infinitif.
Ouais.
Et alors là, c'est pareil, si on peut y passer la journée, je pense que je peux expliquer. Là, dans ce cas-là, il ne fallait pas accorder.
Exactement. Il ne fallait pas accorder. Et là où c'est intéressant, c'est que l'orthographe est source de débat, de discussion. C'est-à-dire que ce n'est pas une règle, ce n'est pas figé dans le marbre. Mais en l'occurrence, là, on n'accorde pas. En revanche, la petite cahute. Comment on s'écrit cahute dans un français correct? Eh bien, avec un seul T. Mais la réforme propose deux T pour être plus cohérent avec une hutte, voilà, le vocabulaire du même champ lexical.
Vous avez oublié entraîner, où on peut pas mettre l'accent circonflexe.
Bien vu Ali, effectivement, l'accent circonflexe sur le I d'entraîner peut disparaître aujourd'hui. Donc elle se trouve près de l'étang au nénuphar, bien sûr les nénuphars. Alors les nénuphars, classiquement c'est avec un PH. Mais c'est une erreur extrêmement récente, 1935, où dans le dictionnaire, le nénuphar... qui est un mot d'origine perse, on est vraiment dans l'Orient, prend un F, et bien en 1935, il se prend un PH, comme ça, une erreur humaine, hein, concrètement, on a voulu lui donner un petit côté grec. Donc, retour au nénuphar de ses origines, il prend un F. Elle servit le punch. Ah, gentil boisson, le punch.
Oui.
Comment on écrirait ça en français, on va dire traditionnel?
Alors, pour moi, c'est PU.
PU.
Mais est-ce que... Alors, je ne suis pas au courant de la réforme sur le ponche.
Eh bien, ce serait un O maintenant.
Ce serait un O, d'accord. Ce serait un O.
On peut mettre un O à ponche.
À ponche. C'est moins joli. Hein.
Moi, c'est moins joli. Coup,
non, non, P-O-N-C-H.
C-H.
Et puis, que nous l'aurait déjà écrit comme ça, c'est... Il avait cette habitude de prendre les anglicismes ou de mots, certains mots étrangers. Oui, par exemple, ou des sigles comme HLM. Mmh. Chez Queneau, ça devient A-C-H-E-L, accent grave M-E.
Mais c'est très présent dans le Canard Enchaîné, par exemple. Ils écrivent Weekend, O-I-I, K-E-N-D-E.
Tout à fait.
Voilà, K-E-N-D-E
PDG. Et...
voilà, exactement.
Avec plein d'accents. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Bon, le ponche, il faut surtout qu'il soit bien fait. Le compte-gouttes. Ah, le compte-gouttes, terrible compte-gouttes sur le pluriel ou pas le pluriel. Est-ce qu'il compte toujours plusieurs gouttes? Eh bien, c'est comme ça qu'on l'écrivait traditionnellement. Un compte-goutte, prenez un S à goutte, et la réforme propose d'enlever ce S pour simplifier des gouttes réglementaires. Et là aussi, l'accent change, hein. Il était grave, il devient aigu. Mais surtout, elle avait de beaux appâts. Ah, le mot appât au pluriel. Oui. Alors, le mot appât est extrêmement compliqué parce que il n'a pas le pluriel de son singulier. C'est-à-dire que singulier, il prenait un T, et au pluriel, le T disparaissait et c'était simplement AS. Perversion sans nom.
Très pervers.
Donc voilà, maintenant.
Vous êtes pervers, Xavier.
Ouais, j'aime assez. Et maintenant, l'appât, la préconisation, c'est de laisser son T qu'il a au singulier et de juste rajouter un S.
Oui, puis attention, parce que les appâts, enfin, le pluriel sans T est un peu. Parce qu'on aurait pu aussi parler du sexisme de la langue. En fait, finalement, il ne désigne que les appâts féminins, etc.
Et en revanche, deux P ou un P?
C'est vrai,
Thomas Chauvinot.
Deux. Et en revanche, les appâts du pêcheur peuvent avoir un pluriel régulier en TS.
Allez, on accélère.
Alors, 21, c'est simple. Maintenant, on met des traits d'union systématiquement quand on a des chiffres écrits en toutes lettres. C'est beaucoup plus simple. L'oignon qui perd son I, on en a beaucoup parlé. Moi, personnellement, j'aime bien le I d'oignon.
Ah mais oui, bon, il pique plus les yeux.
C'est vrai, un oignon sans I, d'un seul coup, il y a un piège qui s'amoncelle sur des cuisseaux de chevreuil. Très intéressant, cuisseau, parce qu'on retrouve ce mot dans la dictée de Mérimée de 1857. Jusqu'alors, il y avait deux cuisseaux. Un cuisseau de veau qui était ôté à la fin et un cuisseau de chevreuil qui était EAU, un mot qui vient de la cuisine, un mot qui vient de la chasse.
Et l'homophonie est source de nombreuses fautes d'orthographe, hein, Richard Herlin.
Aussi, oui. Ouais. Ou c'est... des quasi-homophonies, par exemple, pour parler du circonflexe, et c'est pour ça qu'il est intéressant de le conserver parfois, c'est que souvent, très souvent, les gens hésitent avec un mot comme tâche, par exemple, tâche et tâche. Alors, il faut trouver, Muriel le disait, on a des petits procédés aussi mnémotechniques.
Il faut un chapeau pour une petite tâche voilà. Au soleil.
C'est ça.
Voilà, et ça marche bien. Alors, avec bonhomie. Bonhomie, terrible mot qui ne prend qu'un seul M. Alors que homme, bonhomme, on l'écrit avec deux M. Donc la réforme préconise de mettre deux M à bonhomie. Elle prépara une sauce douceâtre. Terrible douceâtre qui traditionnellement s'écrit C-E-A, accent circonflexe, T-R-E. Là, on enlève le E, c'est beaucoup plus simple. Pareil pour les pluriels, des mots d'origine étrangère, des Miss. Alors,
c'est quoi des Miss?
Des Miss, une Miss, une Miss, Miss France, Miss Univers.
Ah,
mais
d'accord.
Oui. Alors, des Miss, comment on fait pour des Miss? Ou c'est pareil pour les matchs? Les matchs, est-ce qu'on le met un pluriel type anglais avec le ES à la fin? Ou est-ce qu'on se contente de rajouter un S? Donc là, la réforme dit les matchs, ne mettez pas ES à la fin, contentez-vous d'un S et ça ira très bien. Combative, qui ne prenait qu'un T, la réforme propose d'en mettre deux parce que hein, c'est beaucoup plus simple et ça rentre dans le vocabulaire du mot, avec des yeux revolver. Revolver n'avait pas d'accent. Mot d'origine étrangère, on en met un parce que des revolvers, c'est quand même drôlement moins joli. Et pour terminer, c'est une extraterrestre et ça on l'a dit tout à l'heure. Maintenant, on fait la soudure, donc il n'y a plus de soucis et il n'y a pas de S à extra vu que c'est attaché à terrestre.
Bravo Xavier Mauduit
pour
beaucoup. Cette dictée inédite. On n'a pas le temps de faire la dictée de Mérimée, mais celle-là était vraiment formidable.
Merci.
Et le corrigé de cette dictée est bien sûr disponible sur le site de Grand Bien Vous Fasse et sur notre page Facebook. Merci Richard Herlin, co-auteur de Retour sur l'accord du participe passé chez Flammarion. Merci Muriel Gilbert, co-auteur de Bonheur des fautes à la librairie Vibert. Et merci au professeur Xavier pour cette dictée. Je recommande votre ouvrage, La dictée, une histoire française chez Stock, avec une préface d'Éric Orsena. Demain, je vous propose une émission avec le célèbre professeur de bonheur de l'université Harvard, Tal Ben-Shahar. À la technique ce matin, il y avait Élise Christophe et Philippe Duclos. La programmation musicale était signée Muriel Pérez.